19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios.
Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolémie et ton péché. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis ta chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout.
Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez, paniquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ben, il est 19h04, on est vendredi, vous êtes bien sur le 102.2 FM, Radio Canu, la plus rebelle des radios, et donc c'est l'heure des Canu Info.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Il y avait un petit problème de micro, mais je crois que mon camarade vous a dit bonsoir. Ça doit aller mieux maintenant. Du coup, ce soir, on va vous parler de la triste et agaçante, pour ne pas dire plus, récupération politique de l'assassinat de Philippine.
Et ensuite, on va continuer avec la chronique de l'impunité policière.
Et ouais, avec toutes les mauvaises nouvelles. Et puis, une fois n'est pas coutume, mais ce sera un petit vendredi. Alors, on enchaînera tranquillement avec l'agenda et évidemment le traditionnel ACAB. Vous pouvez nous appeler au
04 78 39 18 15.
Voilà, pour nous proposer vos ACAB. Et puis voilà, finalement, voilà. C'est parti.
Canu Info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Nous sommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Alors, la récupération politique de l'assassinat de Philippine, des meurtres qui choquent bien sûr, mais qui choquent davantage quand elles sont commises par des migrants. Quel choc, on dirait. Mardi 24 septembre, un ressortissant marocain âgé de 22 ans, fortement soupçonné d'être l'assassin de Philippine, 19 ans, retrouvé samedi 21 septembre partiellement enterré dans le bois de Boulogne, a été interpellé par des policiers suisses à la gare de Genève. Sur l'ensemble de la scène politique, à gauche comme à droite, les réactions vives ont fusé ces derniers jours et à juste titre, on dirait. En attendant les résultats de l'enquête ouverte pour l'homicide et viol, la question d'un dysfonctionnement judiciaire est posée d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Comme vous pouvez l'imaginer, l'indignation ne s'arrête pas au système judiciaire lorsqu'il s'agit d'un criminel migrant. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a évidemment saisi l'occasion pour annoncer un changement de règles, nous dit-il. Je cite, « C'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français, bien sûr, car c'est le premier de leurs droits et donc le premier de nos devoirs. S'il faut changer les règles, changeons-le. Bon. Un meilleur système judiciaire, oui, bien sûr. Le changement de règles devrait néanmoins avoir un impact sur les migrants dans leur ensemble, comme cela a souvent été le cas. » Et comme nous ne connaissons que trop bien la position de Ratayeux sur la migration. Les règles répressives à l'égard des migrants, de manière plus générale, ont déjà changé assez souvent, et pour le pire au cours des dernières décennies. Les tentatives de récupération politique sont plus visibles, évidemment, du côté de l'extrême droite. Nous n'avons pas encore des marches de l'extrême droite, comme ce fut le cas il y a 2 ans, lorsqu'une histoire similaire a impliqué le meurtre d'une jeune fille de 12 ans dans le nord de Paris. Mais nous n'en sommes probablement pas loin si nous parcourons les tweets de la fachosphère. Un tweet de Jordan Bardella, par exemple, commence par « La vie de Philippine lui a été volée par un migrant marocain sur le coup d'un OQTF ». Pour continuer ensuite en disant « Nos dirigeants laissent les Français vivre avec des bombes humaines ». Voilà. Bon, nous avons donné une voix à Retailleux et à Bardella. Peut-être nous devrions nous en donner une aussi à Marion Maréchal. Mais nous le faisons, car nous voulons faire une remarque importante ici. Elle a tweeté, elle aussi, un peu après la nouvelle, en disant « Notre politique migratoire importe des prédateurs dont les femmes sont aujourd'hui les premières victimes ». Bon, ça c'est une belle illustration en fait de ce que la sociologue Sarah Faris appelle fémonationalisme. Tu connaissais ça déjà ?
Ouais, j'ai entendu parler, c'est les fachos féministes.
Ah voilà.
Enfin, pseudo-féministes, mais fachos pour de vrai.
Et voilà, voilà. Le concept de fémonationalisme a été forgé par la chercheuse états-unienne Sarah Faris au milieu des années 2000. Il désigne évidemment l'instrumentalisation d'un discours féministe à des fins électorales racistes, islamophobes et xénophobes. Dans son livre « Un homme des femmes, fémonationalisme, les instrumentalisations racistes du féminisme » paru en 2017 et édité en France par les éditions Sileps en 2021 sous la traduction de Julie Robert, la sociologue américaine montre que ces discours, qui stigmatisent notamment les hommes musulmans, sont portés par des nationalistes néolibéraux, voilà, des islamophobes et des fémocrates, définis comme les tenants d'un féminisme institutionnel. Raccourci des mots nationalisme, féministe et fémocratique, le fémonationalisme s'est notamment incarné en France dans diverses formes, comme le montre d'ailleurs une autre sociologue française, Koutar Hachri, dans un récent article publié dans la revue La Déferlante. Notamment, c'est la politique contre la porte du voile, qui mettait en péril l'identité nationale, et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dont on a eu justement l'exemple, présentée comme étant essentiellement commis par d'hommes étrangers. Enfin, il y a un site que j'aime beaucoup. Il s'appelle INSEEFR.
L'INSEE, voilà. On dit. C'est ça,
c'est vraiment, vraiment très fiable. Et on a des données à vous offrir, mais déjà, je pense qu'on connaît très bien que vraiment, c'est pas une question
de classe, d'origine.
Qui conduit les hommes à faire des violences aux femmes. C'est bien au-delà de tous ces genres de considérations sociologiques que ces violences existent.
Le patriarcat se diffuse dans toutes les classes. Enfin, il n'y a pas d'autres dénominateurs communs sur les violences sexistes et sexuelles.
Évidemment.
Que le patriarcat et des hommes qui attaquent des meufs.
Tout à fait. Bon, c'était ça.
Et sur ces bonnes paroles, on va continuer avec des trucs bien dégueulasses et on va vous parler de ce truc dégueulasse que chacune connaît malheureusement, c'est la police.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Et ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police mutine.
Violence policière.
Et oui, la police mutile, la police assassine et surtout les keufs, finalement, ils jouissent de ce truc. On appelle ça l'impunité. Alors, on entend toujours les fachos de droite nous raconter qu'il faut plus de fermeté, des peines qui s'appliquent, tout le tremblement. Et bizarrement, on les entend jamais venir rouspéter quand les keufs sont blanchis pour leurs exactions. Alors, pour commencer, on a quand même une petite sortie, c'était presque juste pour le plaisir de tacler par derrière de l'UNSA et Alliance à l'échelle de Lyon qui pleurniche parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de keufs à Lyon alors qu'il y en a déjà bien trop et qui voudraient que plus d'un tiers des élèves formés à l'échelle nationale pour la police nationale soient affectés à Lyon. Non merci, il y a déjà trop de keufs à l'échelle nationale, il y a trop de keufs et à l'échelle locale, en vrai s'ils ne sont pas à Lyon, c'est toujours ça de prix, même si effectivement on va pas tirer. Il faut moins de keufs à Lyon et plus de keufs ailleurs, évidemment c'est pas l'idée. Bref, voilà, toujours dans l'impunité policière, enfin plutôt pour commencer avec l'impunité policière. Je crois que les camarades vous en parlaient la semaine dernière, le commissaire Chassin, donc, qui était responsable en fait de la mort de Steve. On se rappelle 2019, 22 juin, dans la nuit du 21 au 22 pour la fête de la musique, une armée de flics a trouvé judicieux de balancer des lacrymos et des grenades de désencerclement à gogo sur une teuf musicale pour la fête de la musique et surtout qui se déroulait à côté de la Loire et qui a conduit malheureusement à la mort de Steve qui s'est retrouvé à tomber dans la Loire ne sachant pas nager. Il est donc décédé le 22 juin 2019 et ça c'était à Nantes. Alors évidemment il a été relaxé, on peut aussi vous apprendre que le parquet a trouvé que finalement c'était à peu près ok comme jugement et que finalement Steve il est mort un peu tout seul quoi, il n'y a pas de responsable, c'est comme si l'intervention policière comme si à chaque teuf finalement il y avait des gens qui tombaient dans les fleuves et qui mouraient ce qui n'est quand même pas le cas et là il y avait quand même un élément assez important, c'est l'intervention policière au milieu de tout ça. On pensera aussi à Redon ou en général en teuf les gens ne perdent pas de main parce qu'ils se prennent des grenades dessus. Voilà. Donc le parquet a trouvé que finalement c'était assez ok et donc ne fera pas appel de la décision. On ne les remercie pas pour ça. Et surtout, on a appris cette semaine qu'en fait il y avait l'ONG Index. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est peut-être pas la plus célèbre, mais c'est vraiment bien. C'est des gens qui font des reconstitutions et en particulier sur les crimes policiers et qui font toujours des reconstitutions, extrêmement détaillées et fournies sur la base de tout ce qu'ils arrivent à trouver en termes de témoignages, de vidéos, etc. Et qui produisent, en tout cas, on vous invite à aller voir vraiment des expertises assez précises et vraiment très documentées sur de nombreux cas de violences policières. Voilà. Du coup, là, en fait, ils avaient été mandatés par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Et donc, ils ont trouvé à peu près un peu plus de 130 vidéos, plus de 5 heures d'images. Et en gros, avec tous les témoignages, etc., ils ont fait, donc ce qu'ils font souvent, ils produisent aussi une vidéo explicative, en fait, de, j'allais dire l'événement, mais ça ne me plaît pas comme terme, du crime policier, qui vient montrer quasiment systématiquement, puisque c'est toujours le cas, les flics mentent, et du coup les incohérences entre les témoignages de la police et la réalité en fait de ce qu'on peut observer avec tous les trucs un peu comme à la télé finalement, les trajectoires des balles, etc., etc. Donc un travail toujours hyper fourni, hyper documenté. Donc là ils étaient quand même mandatés par le juge d'instruction pour aller faire ce taf là. Ils en ont sorti en gros une vidéo de 28 minutes, mais tenez-vous bien, en fait c'est une vidéo, enfin une expertise sur eux, parce que la vidéo de là de ça il y a aussi évidemment un document écrit. N'a pas été utilisé par la justice lors du procès du commissaire Chassin, puisqu'en fait, il a été reproché par la défense le fait que l'ONG était trop engagée en ce qu'elle a l'habitude de réaliser des vidéos de reconstitution de violences policières. C'est son job, hein, déjà qualifier ça de trop engagé alors qu'ils produisent des reconstitutions, c'est quand même tout à fait audacieux, pour ne pas dire plus, et qu'ils travaillent avec les parties civiles ou des médias, et oui, il faut aller chercher l'information et pouvoir après la diffuser. Donc finalement, du coup, la justice était bien emmerdée parce que si vous avez le temps, alors la vidéo dure une heure, mais pourquoi pas, vous pouvez aller voir, effectivement, elle met quand même plutôt en cause le commissaire. Seulement, dire l'ONG est trop engagée, elle produit, mais en fait, son travail est sérieux, du coup, ça suffisait pas. Du coup, il y a une autre astuce qui a été trouvée de dire que finalement, le magistrat n'avait pas prévu les parties qu'il désignait cette association pour faire réaliser l'expertise et qu'il n'avait pas suffisamment motivé sa décision de ne pas prévenir les parties. Et du coup, d'un coup, cette expertise qui aurait... Alors, est-ce qu'elle aurait changé l'issue du procès? Malheureusement, on n'en sait rien. En tout cas, cette expertise n'a pas du tout été retenue dans le procès. Et c'est comme si elle n'avait pas existé. Voilà, pour continuer un peu, on vous en avait parlé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y a Flagrant Déni, le média qui... le slogan c'est dévoiler les rouages de l'impunité policière, donc qui travaille sur l'impunité policière, avait été spammé et attaqué donc avec des appels, des courriers malveillants à gogo, et Ça, c'était en 2020. Et du coup, qu'avait remonté en fait l'IP qui était à l'origine de toutes ces attaques numériques. Et évidemment, l'IP, enfin évidemment, en tout cas, l'IP appartenait, renvoyait au ministère de l'Intérieur. Quelle surprise! Du coup, alors on va vous passer tout le déroulé parce que c'est quand même très très long. En tout cas, sachez que du coup, il y a une plainte qui a été déposée le 7 juillet. Ensuite, il y a eu toute une astuce de la justice qui a fait traîner, qui a voulu dépayser, parce qu'au début, ça devait être jugé à Lyon. Ensuite, ça a été envoyé à Paris, qui finalement a dit non, c'est revenu à Lyon. En tout cas, la justice s'est bien débrouillée, parce que finalement, ce dossier, il a mis un temps infini à être traité, et en vrai, pas tout à fait infini. Il a mis un an et quelques semaines. Et en quoi c'est un peu intéressant, ça? C'est qu'au bout d'un an, les données numériques ne sont plus conservées par le ministère de l'Intérieur. Conclusion, pile au moment où l'instruction a vraiment été ouverte, les données avaient été effacées. C'est quand même vraiment pas de chance. On va finir par devenir de droite et dire que la justice ne va pas assez vite. En tout cas, dans ce cas-là, elle a pris son temps et c'est quand même tombé pile poil. Bref, donc on rappelle, tout ça c'était en 2020, on est en 2024. Et là, assez récemment, du coup, il y a eu évidemment des relances par l'avocat de flagrant déni. Et finalement, ils ont mobilisé la justice pour un tribunal spécial qui est censé juger le fait que quand la justice ne se fait pas, qui a dit oulala, mais alors moi je peux vraiment rien dire, il faut que j'attende le résultat de la justice administrative, hein, la justice administrative c'est l'État, et du coup évidemment l'administration fait traîner au maximum, et du coup il y aura donc bien une audience préliminaire pour cela en novembre 2025, soit on sera 5 ans et demi après les faits. On rappelle qu'il y a des gens qui se retrouvent en garde à vue et qui passent le lendemain matin en comparution immédiate en France. Voilà, alors pour conclure quand même sur une nouvelle un peu moins dégueulasse et qui vient montrer qu'il y a quand même des enjeux et des gros enjeux à mettre la pression en fait sur les enjeux, sur les violences policières. Alors, on va tout de suite dire, des fois, en fait, on se fait maraf par la police, on n'a soit pas envie d'en parler, soit pas envie de porter plainte, et évidemment, c'est légitime et à aucun moment on critiquera quiconque qui fait ça, chacun gère comme il le peut, surtout en général tout ça. En tout cas, de temps en temps, il y a des choses qui sont plus médiatisées que d'autres, et c'est aussi un lieu de mettre la pression sur l'État, et en l'occurrence c'est l'affaire de Jérôme Rodriguez. Alors, c'était pendant les Gilets jaunes, c'était un leader du mouvement, et il s'est fait éborgner par une grenade le 29 janvier 2019, voilà. Du coup, bon, c'est une affaire qui était quand même bien médiatisée parce qu'il était déjà un petit peu connu, parce que bon, quand vous n'êtes pas connu et qu'on vous déglingue un œil, tout le monde s'en fout. Enfin, quand la police vous déglingue un œil, hein, évidemment. En tout cas, et du coup, ça a fini quand même par porter ses fruits. Alors, on rappellera quand même que donc l'enquête a montré, donc le flic évidemment disait, oh là là, un groupe très hostile, on nous attaquait, c'était très très dangereux, tout le monde était méga 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 violent, c'était ouf. Bon, même l'IGPN et la justice sont obligés de dire en fait, non, les gens étaient là, enfin ils faisaient une manifestation, mais par contre il y avait effectivement peut-être des jets de projectiles, mais absolument pas imputables à Jérôme Rodriguez, et en tout cas il n'y avait aucune situation de danger pour les keufs à ce moment-là. Voilà, ce qui est déjà pas si mal en vrai de voir la justice réaliser ça, dire la vérité. Voilà, c'est finalement ça dont il s'agit. Par ailleurs, on peut quand même dire que il y a eu une enquête administrative, donc faite au sein de la police, qui a conclu un usage disproportionné de la force de Brice C. Alors bon, le problème, c'est quand c'est la police qui juge un peu la police, enfin quand c'est le ministère de l'Intérieur plus précisément qui sanctionne la police, il a eu, c'est chaud hein, quand même, accrochez-vous bien, une exclusion temporaire de 15 jours, dont 5 fermes. Et ça, je pense que vraiment, ça a été très très dur pour lui. Au-delà de cette absence quasi de sanctions pour le keuf, le parquet a quand même été obligé de requérir un procès pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, pardon. Donc c'est passible de 15 ans de prison, on se doute bien que ça finira pas comme ça, mais quand même devant la cour criminelle départementale, ce qui, au-delà du rendu du jugement sur lequel on n'attend pas forcément grand-chose a priori, en tout cas c'est dire qu'il va passer devant un vrai tribunal pour avoir mutilé une personne personnes, et que ça c'est probablement dû à la pression médiatique finalement qui a été mise, et que même si c'est un peu triste de se dire que pour avoir, j'allais presque dire un procès équitable contre la police, il faut être médiatisé, en tout cas quand ça arrive c'est tellement rare, on prend ce qu'il y a à prendre et on va se dire que c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, je voulais peut-être aussi mentionner le fait que ça existe aussi pour les violences aux frontières. Ça existe Border Forensics, qui est un site, un projet qui d'ailleurs s'est lancé avec, je pense, des financements européens et qui ont fait une enquête similaire pour, je pense, c'était 2018, Matthew, Blessing Matthews, la première morte aux frontières. Alpine entre l'Italie et la France. Ils ont fait une reconstitution similaire, avec malheureusement le même sort. Il n'a pas été mis, pris en compte à la fin, mais c'était un sacré de travail en fait, pour montrer démontrer les arguments et les mensonges des policiers.
Montrer la réalité de...
à la mort de cette jeune fille qui a essayé de traverser la frontière vers la France depuis l'Italie.
Border Forensics,
parce que c'est des criminologistes, ouais. on peut le dire. Criminologue
des frontières.
Voilà.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, c'est un petit canu info, mais il y a un gros, gros agenda. Alors, pour une fois, on a le temps de vous en parler. Allons-y, c'est demain.
C'est demain, hommage à Salvador Allende, à partir de 11h à 12h30. Comme chaque année, l'association France-Amérique latine commémore la disparition de l'ancien président chilien Salvador Allende le 11 septembre 1973. Par de droits de l'homme, bien sûr, l'adresse à Villeurbanne.
Et puis, après ça, il y a malheureusement un énième rassemblement Stop Génocide en Palestine qui continue, et évidemment solidarité avec le Liban qui est sous la folie de Netanyahou. Ça se passe à 14h jusqu'à 16h30 et le rendez-vous est donné à la place des Terreaux à Lyon.
Pour ensuite, on continue à partir de 13h si vous avez envie de suivre le festival pour la suite du monde, cinéma, lutte et résistance. 10 jours de festival à partir de 5 octobre. Une trentaine de films sur les luttes actuelles, toutes les projections suivies de discussions avec de nombreux et nombreuses invités, théâtre de l'Élysée ici. Pas loin, à Guillotière.
Exactement. Et puis, peut-être après la manifestation pour la Palestine en solidarité avec le Liban, ça se chevauche un peu, mais pas trop, et c'est pas si loin. Il y a un rendez-vous à 16h à l'appel du collectif Droits des Femmes 69. C'est une journée mondiale pour le droit à l'avortement qui est attaquée de toutes parts et de plus en plus, malheureusement. Et donc, c'est place de la comédie.
Et ça commence aussi ce week-end, la rentrée à l'illégalité, un espace autogéré accusé à Villeurbanne, un espace qui existe depuis presque 4 ans déjà. Il y a toujours autant de choses à y organiser, des cours de français, certains d'entre nous en connaissent bien.
Et donc ça c'était dimanche, mais lundi, si vous habitez Villeurbanne, ce que je pense que c'est plutôt destiné à vous, le comité de lutte Lyon qui propose du coup la création de comités de quartier. Et donc pour Villeurbanne, ça sera au Parc des Droits de l'Homme encore, c'est le lundi 30 et ce sera à 18h.
Et il y aura à 19h... une causerie du 30 septembre pour mineurs non accompagnés. Venez discuter et débattre avec l'ami de la situation des mineurs non accompagnés dans la métropole de Lyon à partir de 19h, comme je l'avais dit, dans le cadre des causeries au Clameur. Bar fédératif Le Clameur, toujours à Lyotière.
Et puis mardi 1er octobre, vous en avez sans nul doute entendu parler, il y a la manifestation interpro nationale, si je ne dis pas une bêtise, le rendez-vous, donc c'est contre l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite et le massacre qu'on va avoir à tout niveau. Le rendez-vous, il est donné à 11h30 à la manufacture des tabacs, et vous pourrez même enchaîner, allez je fais tout le mardi comme ça, l'assemblée de rentrée du collectif Solidarité entre femmes à la rue. Ça se passe à 17h30. Et le lendemain, pardon, il y aura un rassemblement. Alors, 17h30 à la Bourse du Travail, ça c'est l'assemblée de rentrée. Et le mercredi 25, qui est passé, c'est pour ça que je me suis perdu. Il y avait un rassemblement, mais du coup, l'assemblée de rentrée, finalement, c'est ce qui vous intéresse. C'est à 17h30, c'est à la Bourse du Travail, c'est mardi 1er.
Voilà, pour toujours mercredi, la création du comité de quartier de la Guillotière de 18h à 21h. Et ça, c'est où ?
Lieu à définir,
voilà.
Et info à suivre, il faut être connecté maintenant. Et voilà, ça fait déjà une bonne semaine.
Pas mal de choses qui se passent.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Et chaque semaine, vous avez été nombreux et nombreuses à nous appeler, malheureusement, on a dû trier. Et nous avons élu à l'unanimité, sans voter, ACAB. Et cette semaine, ça veut dire à la casse, l'armée Barnier. Voilà. C'était un Canu Info Express, mais avec l'essentiel, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, il est 19h30, alors vous allez avoir une petite demi-heure de bande continue. Et ensuite, je crois que c'est votre émission de Tectonique qui prend à partir de 20h. C'est Noise Pollution qui nous rejoint. Et puis, restez sur le 102.2 FM. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, nous.
Et bon week-end.
Bon week-end, à la semaine prochaine.